Service public.
Service public.
Service public.
Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Éducation, santé, justice et loi. Sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réunis sur une même enseigne.
Réunis sur une même enseigne.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
C'est tout simplement notre métier.
h 5 minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir, les amis, de vous retrouver comme tous les dimanches, lundis et mardis dans Service public pour essayer de répondre aux questions qui nous concernent, des questions du quotidien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir de grandes dames. Vous allez les découvrir juste après la chanson. Et j'ai aussi l'honneur et le plaisir de travailler avec toute une équipe. Hakim Ben Moussa à la réalisation. Mohamed Tolba est de retour pour la console technique. Un plaisir de l'avoir avec nous. Tahar est à la régie et notre ami Nadib au streaming. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de la médecine, mais pas n'importe quelle médecine, la médecine du travail. On va parler de sa mission, l'organisation. On va revenir aussi sur les préventions. Et ça sera juste après la chanson.
سرج يا فارس الظلام للبهجة روح يا خليلي شظف من نابلة مقام للزهرة روح عيد رسلي توصل مرخوفة الحزام آه في وهر ساكنة غزالي الأزرق شنواح اللجام يتحومل صيد جاي فالي سرج يا فارس اللطام سرج يا فارس اللطام قرصان البحر كان عام وإذا سكناه الريح يجلي من لطة القدام طبع القمان والمشالي قبل لا ينفج الظلام اسرع بنوى وبيت سالي بشوبك لسان المدام قدوة القاتل جلي سرج يا فارس المطام سرج يا فارس سرج يا فارس النطام للبهجة يرجع روحي يا خليلي شظف منا بلا مقام للزهرة روح عيد لي توصل مرخوفة الحزام في وهرة نساك لا يغسلي لزرك شلواح النجام يتحول
regretter Ahmed Wahbi, celle de Jafar Sultan. Mais c'est bien de voir justement cette nouvelle génération qui excelle pour donner un autre sens et attirer encore davantage les jeunes pour écouter notre patrimoine musical. Et c'est Houssine Ben Hadj. Franchement, une très très belle reprise. Elles sont là, elles ont adoré la chanson. Ça a contribué à déstresser le docteur Mabir. Nous avons justement ce plaisir de recevoir le professeur Nour Aliani. Un plaisir de vous avoir avec nous.
Plaisir partagé.
Ça va, vous allez bien?
Oui.
Ça se passe bien? C'est très très important dans votre domaine. Il faut que tout le monde soit bien.
Ah oui, c'est un bien-être physique et mental et social. C'est
tout
la
à
définition
fait, tout
même
à fait.
De la santé. Avoir la santé.
Et elle est avec nous, elle a le trac, mais elle a un sourire ravageur, les amis. Elle s'appelle Newel Mamir. Elle est médecin du travail et c'est un plaisir de vous avoir avec nous.
Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je vous remercie pour
l'invitation. À part le stress, ça va?
Ça va, ça va.
Ah bah, c'est cool. En plus, on est streamé, les amis. C'est bien aussi.
C'est bien.
Professeur Liani, si on devait revenir un petit peu sur cette médecine du travail, si on devait la définir.
Alors, la médecine du travail, c'est... En fait, en Algérie, il faut savoir qu'elle a une spécificité, c'est assez particulier. Mmh. La médecine du travail est une institution légale. C'est-à-dire que c'est une médecine qui est organisée par des textes de loi. Mmh. C'est-à-dire que les référentiels d'un médecin du travail sont inscrits dans des textes de loi. Et la spécificité de notre pays, c'est qu'elle est à la fois curative, accessoirement curative et principalement préventive.
Tout à fait.
Dans d'autres pays, elle est exclusivement préventive. Donc elle vise, son objectif principal, c'est de préserver la santé du travailleur dans son milieu de travail. Voilà.
Qui doit préserver cette santé?
Il y a plusieurs acteurs, dont la médecine du travail. D'ailleurs, il faut bien faire la différence entre la santé au travail et la santé en milieu de travail, qui est la médecine du travail. En fait, la médecine du travail, c'est une composante essentielle de la santé au travail. La santé au travail, ça englobe la santé au sens propre du terme, mais aussi tout ce qui a trait à sa sécurité de ce travailleur. Donc, c'est l'ergonome, c'est l'hygiéniste, c'est le toxico. Il y a toute une équipe qui gravite, c'est le service d'hygiène et de sécurité. Tout ça, c'est la santé au travail qui englobe la dimension sécurité. La médecine du travail, c'est vraiment la santé au sens propre du terme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Bah oui, oui, vous avez répondu. Et ben justement, qui a droit justement à cette santé? Tous ceux qui travaillent.
Tout le
monde,
tout travailleur.
Sans exception.
La loi, la législation a droit. D'abord, c'est un droit constitutionnel de protéger la santé du travailleur dans son milieu de travail. C'est une obligation, c'est un droit aussi pour le travailleur. Et puis, tout travailleur, bien sûr, qui est déclaré. Malheureusement, cette médecine du travail, elle ne couvre pas les travailleurs qui exercent dans l'informel. Donc, ce sont tous les travailleurs déclarés qui ouvrent droit, justement, à cette médecine du travail. Elle relève de la responsabilité de l'employeur. Donc, il est fait obligation aux employeurs, de quel que soit son statut, qu'il soit privé ou
public,
grande
ou petite,
grande ou petite ou moyenne entreprise, donc quel que soit le statut juridique de cette entreprise, l'employeur doit prendre en charge, il doit protéger le travailleur.
Donc c'est lui qui a justement cette responsabilité, protéger ses employés.
Exact, c'est une obligation légale et ça va au-delà, puisque c'est lui qui doit financer tout ce qui a trait à cette santé.
Mais justement,
en
comment
milieu de travail. Comment? Il y a plusieurs. La loi est très. Elle lui laisse quand même une latitude décisionnelle. Il a le choix, soit, donc s'il dépasse un certain effectif, de créer son propre service de médecine du travail.
D'accord.
Il embauche. C'est un service autonome. La loi lui demande de créer.
D'avoir quelqu'un sur place.
D'avoir quelqu'un sur place, mais au-delà d'un certain effectif. Et un grand nombre d'entreprises Sonatrach, Sonelgaz, pour ne citer que celles-là,
la
mais d'autres, ont créé leur propre service.
Fait.
Donc, ils ont leur propre médecin. Et sinon, s'il n'a pas l'effectif requis, ou s'il n'a pas l'effectif requis, il doit signer une convention. Donc,
avec
il y a une convention
structure.
Type avec une structure type, soit une structure publique, c'est-à-dire un secteur sanitaire, un CHU, le PSP, ou alors avec un service privé, avec un établissement privé. Il y a des services de médecine du travail.
C'est obligatoire.
Oui.
Ah oui, oui.
C'est une obligation pour l'employeur.
C'est une obligation légale et le financement est à sa charge.
Très bien.
Voilà.
Et comment ça se passe réellement sur le terrain ?
Malheureusement, sur le terrain, beaucoup d'employeurs n'adhèrent pas. C'est-à-dire qu'ils signent la convention, ou du moins je parle pour nous, le secteur public. Ils signent la convention. C'est ce qu'on appelle, nous, entre nous, une convention alibi. En fait, pour le dossier, pour qu'il puisse exercer, il est obligé d'avoir une convention, d'assurer une surveillance médicale à ses travailleurs.
Très bien.
C'est une obligation. Donc, il coche, c'est comme un cahier de charge, notamment la surveillance. Donc, il vient vers nous, il signe des conventions.
Et par la suite, il ne se présente pas.
Il ne se présente pas, il disparaît. Vous ne les voyez pas. Et nous, entre nous, et ça, c'est pesant parce que, en fait, lui, quand il est contrôlé, il présente que comme quoi il est...
C'est légal.
C'est légal.
Il a une convention, il est couvert.
Oui. Il est couvert. Légalement, il est couvert. Mais dans le réel, en pratique, il n'est pas...
Que doit contenir justement
cette convention, il y a une convention type. Il y a une convention type qui a été établie par le ministère de la Santé, puisque la médecine du travail chez nous, elle est sous, elle s'exerce, elle est sous l'autorité, elle est organisée, contrôlée par le ministère de la Santé. Donc il y a eu une convention type dans laquelle on est un petit peu mal à l'aise maintenant, parce que bon, il faut absolument qu'on revienne. Elle a été faite dans des années où nous étions dans d'autres organisations de travail, où l'Algérie avait un autre profil économique, et maintenant elle devient obsolète, si je peux me permettre de le dire.
Mais que doit assurer l'employeur, justement ?
L'employeur, il doit assurer, il doit envoyer ses travailleurs aux visites médicales obligatoires.
Une fois par an.
Donc, il ne...
Tout dépend du risque dont il y a
tout
à l'entreprise.
Alors, il y a des travailleurs, c'est minimum, effectivement, une fois par an. Mais il y a des travailleurs, certains profils, et il existe une liste qu'on appelle des travailleurs à
fortement exposés.
Donc, qui nécessite une surveillance médicale particulière.
Au moins tous les 6 mois.
Au moins tous les six mois, sinon ça peut être plus, c'est laissé à l'appréciation du médecin du travail. Et puis, on ne peut pas décider d'une aptitude. En fait, nous, à travers nos consultations, nous confrontons un état de santé à une exigence d'un poste de travail. De par notre formation, on connaît les exigences d'un poste de travail, on doit faire des études de poste, on doit faire des évaluations des risques. Et puis, on voit par rapport à l'état de santé du travailleur, on voit s'il peut ou il ne peut pas, est-ce qu'il peut toujours ou il... Et on fait cette surveillance avec un objectif quand même que les personnes partent en retraite en bonne santé, qu'elles puissent jouir quand
c'est
même de
aussi.
Leur retraite.
C'est ça aussi.
Parce que ce n'est pas une fatalité d'être malade de par son travail.
Exactement.
Ça, c'est une idée d'avant. On se disait, ça fait partie du métier. Non, la pneumoconiose avant chez les mineurs, oui, c'était comme ça. Mais
en plus, à des âges très jeunes.
Très jeunes. Ils étaient grabataires à 40-45 ans. On a gagné en espérance de vie, mais on doit gagner en espérance de vie.
Ans, 95
avec
ans,
oui.
Mais il faudrait qu'on... En bonne santé. Ça ne sert à rien de partir avec des poumons endommagés, des reins aussi. Donc, toutes ces pathologies liées au travail. Donc, à travers cette convention, donc le directeur, donc les deux, il y a le prestataire et donc... Nous nous engageons à les prendre en charge et aussi on est soumis au secret industriel.
Bien sûr.
Un médecin qui est soumis à double secret, le secret médical
et
le secret
industriel. Par rapport au processus de travail.
Il doit nous laisser donc aller faire nos évaluations des risques professionnels sur les lieux de travail. Donc malheureusement très souvent entrer dans les ateliers ça devient de plus en plus difficile. Et d'un autre côté, donc, nous devons assurer cette surveillance médicale. Et tout ça est à sa charge. Voilà, je pense que c'est ça la convention qui nous lie. Mais force est de constater qu'ils n'en voient pas. Alors, pour certaines entreprises, je ne dis pas tous, il y en a qui ont quand même, il y a de la bonne volonté chez certains employeurs. Mais pour d'autres, non, c'est des conventions alibi. Parfois, ils ne libèrent pas leurs travailleurs. Parfois, ils les libèrent et c'est le travailleur lui-même qui ne vient pas. Il n'y croit pas, il se dit, bon, on n'a pas cet aller faire... un examen alors qu'on se sent bien. On a mal nulle part.
Et pourtant.
On est bien. Et pourtant, c'est souvent état de bonne santé apparent.
On peut dépister certaines maladies qui sont
à un stade
encore infraclinique.
Même, ma mère, étant donné que vous êtes sur le terrain.
Moi, je ne suis pas sur le terrain, je suis dans l'administration.
Donc, vous êtes dans l'administration. Très bien. Oui. Et est-ce que vous avez vu des cas de personnes qui refusent d'aller justement consulter en sachant que c'est quelque chose de primordial?
Oui, c'est durant mon cursus dans les établissements de santé publique, j'ai exercé quand même certaines durées. On avait dépisté certaines pathologies qui étaient vraiment à un stade infraclinique et on a pu les prendre en charge un âge plutôt avancé. On a pu les prendre en charge quand même. Alhamdoulilah, ils se sont en sortis, même par rapport à leurs conditions de travail. Vous savez, même votre travail vous expose à des risques. Déjà, le stress, la position assise. Pour certains, travaillent toute la journée assis face à l'écran, c'est quand même un risque. Ils sortent en retraite avec des troubles musculo-squelettiques. Oui. On peut éviter tout ça par certains gestes de prévention très simples. Donc la médecine du travail a un rôle très important. Il faut que l'employeur sache l'intérêt de la médecine du travail. C'est pas seulement signer des conventions et les mettre dans les tiroirs. Il faudrait prendre en charge sérieusement leurs travailleurs parce que l'employeur, il est le premier responsable. Il a l'obligation d'assurer la médecine du travail et d'assurer la prévention sur les lieux de travail. Et pour le travailleur, c'est un droit absolu. Donc lui aussi, il doit être informé de ses droits. Il doit être informé que la médecine du travail est quand même importante pour sa santé en premier lieu. Pour la prévenir contre les risques auxquels il est exposé, il faudrait qu'il sache. Donc, de par l'obligation de l'employeur, il doit l'informer donc des risques dans lesquels il travaille et les moyens de prévention pour qu'il puisse préserver sa santé.
Selon
les métiers, effectivement. Je vous ai dit que même le travail administratif contient des risques. Avec actuellement le risque émergent, donc c'est un autre problème qui se pose. Donc, le travailleur doit être conscient aussi. Il doit demander et réclamer après la médecine du travail. Voilà.
Même si on ne l'oblige pas, il faut qu'il demande.
Oui, effectivement, parce qu'on peut déceler, on peut dépister des diabètes à un stade infraclinique, des problèmes de santé, d'HTA. Au lieu qu'il reste comme ça avec un problème d'HTA qui traîne sans traitement, il peut risquer de faire des complications, un AVC ou autre, des problèmes d'insuffisance rénale par exemple. Il est dépisté à des stades précoces et là, on peut le prendre en charge et on peut prévenir les complications des pathologies chroniques. Donc là, le médecin de travail, il n'a pas que de la mission par rapport à l'aptitude et la détermination de l'aptitude du travailleur, même dans le cadre de dépistage des maladies chroniques, des cancers notamment qui deviennent fréquents actuellement. Donc on peut les dépister à des stages précoces tels que le cancer du sein. Chaque fois on fait des dépistages pour le cancer du sein, le cancer de la prostate chez l'homme. À partir de 50 ans, on doit faire certains dosages. Et là, les travailleurs ne le font pas systématiquement s'ils ne sont pas sensibilisés par leur médecin de travail. Donc il a une place et un rôle très très important en entreprise. Il faudrait qu'il soit présent et qu'il soit actif sur les terrains et que l'employeur contribue à cette médecine de travail au sein de son entreprise.
Donc par exemple, le médecin doit faire une ronde périodique pour voir un petit peu où en est la situation, rentrer en contact avec
les employeurs, les travailleurs. Oui, parce qu'on a la mission d'informer, de former les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et aussi sur la sensibilisation du tabagisme, de lutte contre la toxicomanie au milieu de travail, des maladies chroniques et le dépistage de ces maladies chroniques, etc. Voilà. Toutes ces missions sont définies par la réglementation, telle qu'elle l'a si bien dit professeur Liani. Il y a une réglementation qui régit la médecine du travail, les missions du médecin du travail, aussi bien sur le plan clinique que sur le plan des lieux de travail.
C'est important, professeur Liani, de rassurer justement les employés, d'essayer de leur expliquer que le médecin en fait des rondes.
Je pense qu'on n'est pas leur ennemi. Il y a une incompréhension de notre métier. Ou alors, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais bon, il y a quelques années, il y avait une meilleure adhésion.
Oui, tout à fait.
Nous voyons au fil du temps que l'adhésion, les taux de couverture sont de plus en plus bas. C'est pas parce que nous ne travaillons pas, nous sommes là. Et pour certains employeurs, ils ne nous perçoivent comme... des contrôleurs. Mm-hmm. En fait, on est des conseillers. Mm-hmm. Hein,
c'est, on est juste pour faire, on est là pour faire la prévention.
Le contrôle, c'est l'inspection du travail. Nous, on n'est pas dans le contrôle. On est dans le conseil. Mm-hmm. Malheureusement, très souvent, c'est le conseiller qu'on n'écoute pas. Donc, voilà. C'est... Et je vous ai dit, notre objectif, c'est espérance. C'est vrai. Je reviens là-dessus parce que c'est important. On est très content que l'espérance de vie des Algériens augmente. Mais en même temps, nous, on vise une espérance de vie augmentée sans incapacité. Sortir en retraite sans incapacité, vous vous imaginez.
Prendre sa retraite à 60 ans, mais c'est génial.
Mais normalement, c'est là,
en bonne santé,
c'est surtout,
surtout.
Ce qui est génial, faut, c'est de
pour pouvoir justement
bien,
profiter.
Pour hein, pouvoir
partir
profiter,
en bonne
avoir
santé.
Travaillé, partir en bonne
c'est
santé.
C'est notre but.
Donc, c'est notre but, c'est notre but. Mais comme a dit Dr Mamir, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de risques émergents que le dispositif réglementaire ne prévoyait pas.
Quels sont justement ces risques émergents?
C'est tout ce qui est santé mentale. Ah, tout ce qui est santé mentale,
risques psychosociaux.
Très, très important. Là, il y a une explosion des risques psychosociaux, on le voit, mais on est désarmé parce que notre marge de manœuvre est réduite. Nous, je vous ai dit, nos référentiels sont inscrits dans des textes. Et ça, c'était c'est des textes qui remontent, pour vous donner une idée, par exemple, notre loi fondatrice et directrice, c'est la loi 8807, c'est-à-dire qui est relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail. En 1988, le tissu industriel était différent d'aujourd'hui, l'économie était différente d'aujourd'hui. Nous étions dans un système qui faisait que, notamment le statut général des travailleurs, maintenant il y a une mutation économique.
Tout à fait.
Avec création d'une nouvelle organisation de travail. Oui. Donc parfois, nous ne pouvons faire pression en écrivant qu'en se référant à des textes. Malheureusement, ces textes, ils sont comme en anachronisme. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils ne répondent plus aux exigences. Donc, je vous dis, il y a une explosion des risques psychosociaux, donc burn-out, anxiété.
Surtout le burn-out en ce moment, c'est devenu
alors,
très, très à la mode.
C'est très souvent lié à un management toxique, on en parlait tout à l'heure, un harcèlement. Toutes les formes d'harcèlement, on le voit, hein, on le constate. Il y a aussi les troubles musculosquelettiques, on ne les connaissait pas.
Le télétravail, la personne est obligée de travailler des heures.
Il y a des organisations, de nouvelles organisations de travail. Le télétravail, il y a les travailleurs numériques sur les plateformes. Il y a aussi les travailleurs précaires. Il y a des travailleurs aussi avant. C'est ce que je disais, c'est que nos textes de loi, ils ont été conçus au moment où un travailleur faisait toute sa carrière dans la même entreprise, généralement. Il était en CDI, à durée indéterminée. Donc, il y avait un suivi qui était relativement simple, parce qu'il est là, on le suit, puisque
le
notre
connaît.
Dossier, il va de la visite médicale d'embauche jusqu'à son départ à la retraite, et on inscrit. Mais là, non. Le monde du travail, je vous ai dit, a changé. Les travailleurs ont des parcours hachés. Il est là en CDI, il va ailleurs, il va... Donc, cette traçabilité des expositions, on n'arrive pas à...
Ne suit pas le travailleur.
Elle ne suit pas le travailleur. Et nous, non plus, on n'arrive pas à le suivre. C'est-à-dire qu'il peut venir avec... il a travaillé ailleurs, dans une autre entreprise. Il vient à une visite médicale d'embauche. Vous ne connaissez pas à quoi il a été exposé avant. Vous devinez. Mais bon, même s'il vous dit « je suis souffreur... »
Il n'y a aucune traçabilité.
À l'heure actuelle, non. Puisque le dossier... Là où il va ouvrir un dossier. Voilà. Donc, il y a un parcours... Un parcours haché, c'est ce que je vous ai dit. Et ça, ça rend difficile la surveillance médicale. Et au-delà, justement, de cette surveillance médicale, parce que les gens pensent qu'on est des experts de l'aptitude, que notre travail se limite à un examen clinique. Non, pas du tout. Nous sommes une spécialité qui est multidimensionnelle. Elle est à la fois... clinique, préventive, organisationnelle. Il y a un cursus de 4 ans avec des modules de toxicologie, d'ergonomie. Donc, il y a un savoir-faire dans le terrain, sur le terrain, mais que malheureusement, on a du mal à exploiter.
Ben justement, par exemple, quand on change de boulot, c'est bien de prendre avec soi son dossier médical.
Ah non,
pas lui, c'est le médecin du travail qui transmet vers le nouveau médecin de travail.
C'est une obligation.
Non. Oui.
Non, c'est pas obligation, une obligation.
Non, docteur.
De préférence.
Il y a de préférence.
De préférence.
Oui, mais là, il faut que le dispositif évolue. Puisque les dossiers, par exemple, ils vous disent que le dossier, par exemple, si l'employeur décide de changer de médecin du travail, les dossiers restent chez lui, mais il y a une passation.
Il faut qu'il y ait une passation
souvent,
de
mais la passation façons. Très souvent elle ne se fait pas pas
de médecin,
très bien
médecin de travail. De médecin.
Entre les deux médecins finalement.
Non, oui, puisque on se voit peut-être il est rare qu'on fasse vraiment les passations. Il y a des
ça se fait dans certaines entreprises mais fait. Pas souvent.
Pas souvent. Alors ils vous disent aussi quand l'entreprise arrête, il y a une cessation de l'activité, ces dossiers doivent retourner
à la direction de la santé.
À la direction de la santé, ça se fait de
non, non, j'ai jamais reçu de dossiers médicaux.
Vous avez, je sais pas si vous situez un petit peu bah les oui. difficultés, puisque il y a certains aspects, les textes de loi le prévoient, mais concrètement, beaucoup ne l'appliquent pas. Je dis pas tous, mais beaucoup ne l'appliquent pas. En même temps, ces lois, on devient un petit peu, on a une marge de manœuvre qui est réduite du fait que ça ne répond plus à l'évolution du monde du travail. Et donc, ça nous laisse un petit peu... c'est comme si on nous coupait les ailes. On a du mal à aller de l'avant. Beaucoup de risques ne sont pas légiférés, ne sont pas réglementés. Mm-hmm. Donc, on reste un petit peu... Il y a le tableau aussi, les tableaux des maladies professionnelles. C'est-à-dire que même si on constate que la maladie est liée au travail, on ne peut pas le déclarer. On ne peut pas le déclarer parce qu'il y a une liste qui est bien définie et c'est une liste...
Cette pathologie ne rentre pas dans la liste, ne figure
ne
pas.
Pas. Mais on n'a pas de système complémentaire pour le faire rentrer. Et pourtant, les tableaux des maladies professionnelles sont des outils dynamiques de prévention. Au-delà de la réparation du préjudice subi par le travailleur, ça permet, c'est des indicateurs. En fait, si, je ne sais pas si vous avez saisi le concept, la maladie professionnelle pour nous, quand on la déclare, c'est un échec.
D'accord.
C'est un échec de prévention. C'est un échec de prévention.
Il n'y a pas eu un travail qui a été fait pour éviter justement d'arriver jusque-là.
C'est un échec.
C'est notre but.
Et normalement, tout médecin, la loi est claire, ce n'est pas la prérogative exclusive du médecin du travail de déclarer une maladie professionnelle.
Tout médecin
est obligé. Et là, même nos collègues, très peu déclarent. Et donc, ce qui fait que les chiffres sont très bas. Et ça ne reflète pas. D'un côté, vous avez presque 14 millions de travailleurs. On est à 13 millions et quelques. Et puis, vous avez à peine 500 maladies professionnelles. Il y a un non-sens. Soit on est au top, au plan prévention.
Qui sait ?
Non. Non. Soit, mais, ou alors il y a une sous-déclaration.
Justement, professeur Liani, docteur Mamir, vous avez justement le ministère de la Santé a organisé un séminaire pour revenir sur cette médecine du travail. Et si on devait revenir un petit peu sur ce séminaire.
Alors pourquoi le ministère de la Santé a organisé ? C'est à cause de tout ce que je viens de dire, parce qu'en fait, chaque année, docteur Mamir, je laisse la parole pour les bilans d'activité. Le médecin du travail doit renseigner un canevas, qui est le bilan, c'est un document obligatoirement renseigné par le médecin du travail. Donc, elle va vous en dire un peu plus.
Donc, le médecin du travail, il a l'obligation d'établir un rapport type à la fin de l'année pour le remettre à l'employeur, pour qu'il puisse savoir, l'employeur, quelles sont les activités aussi bien médicales que sur les lieux de travail, qui ont été effectuées par le médecin de travail, notamment par rapport au nombre de consultations médicales, nombre de pathologies dépistées, accidents de travail, maladies professionnelles qui ont été dépistées, les enquêtes qui ont eu lieu suite à ces différents accidents de travail, maladies professionnelles ou autres. Il y a même l'étude des conditions de travail avec les études de poste, les études métrologiques, etc. Tout ça doit être remis à l'employeur dans un rapport annuel qui doit être remis à l'employeur. En parallèle, il y a une synthèse d'activités qui doit se faire par les médecins de travail.
Donc un rapport qui concerne tous les travailleurs de la
Tous les travailleurs de la société, des entreprises avec lesquelles ils sont conventionnés. Une synthèse annuelle des activités est transmise à la direction de la santé de la wilaya territorialement compétente qui va être exploitée pour établir un bilan de wilaya qui va être transmis au ministère de la Santé. Voilà. À travers ces bilans d'évaluation, il va découler un plan stratégique établi par le ministère. Et vu les insuffisances qui ont été constatées, il y a eu un séminaire en 2023 qui a fait un travail par rapport à l'évaluation de ces canevas qui ont été revus. Il y a eu un texte en 2025 qui est sorti pour renouveler les textes des rapports annuels et les rapports types des entreprises. Et on aura un fruit de résultat normalement bientôt. On commencera à recevoir ces rapports pour les exploiter, voir les insuffisances qui ont été déclarées par les médecins de travail, les constatations et tout, pour qu'on puisse essayer de revoir ces canevas et établir la suite par la suite.
Le ministère de la Santé, comme il est... Il a été destinataire, c'est lui qui est destinataire de la synthèse
des rapports, de toutes les DSP.
Et il a été constaté qu'au niveau de la direction de la prévention, que les bilans ne sont pas reluisants. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, mais après, dans les bilans, on voit au fil du temps que les visites réglementaires, le nombre diminue, qu'il y a de moins en moins...
L'activité du secteur privé qui ne parvient pas. Oui.
Elle ne remonte pas, l'activité du secteur privé. Certains. Il y a aussi les médecins du travail au niveau des entreprises, il n'y a pas une remontée d'informations. Donc, sans indicateurs, sans chiffres, comme on le disait, vous ne pouvez pas dire... Et du coup, donc...
Où en est la situation exactement ?
Effectivement.
Et donc, le ministère de la Santé a décidé de mettre en place, pour moderniser cette médecine du travail...
Un système de récolte aussi.
Et puis, améliorer le système de récolte de données.
Des informations.
Donc, être un peu plus percutant. Mais il faut dire aussi qu'en parallèle, le constat, il a été fait par le ministère du Travail... Mais un constat similaire a été fait par le ministère du Travail qui avait publié en janvier 2004 le profil national de santé et sécurité au travail. Donc c'est franchement un outil qui est très important pour notre pays, c'est le profil. Et il avait montré aussi un écart entre... beaucoup d'insuffisances et un écart entre les textes et la réalité du terrain, et cette nécessité aussi d'aller de l'avant dans le domaine de la santé au travail. Ils ont fait un constat similaire. Voilà. Et donc, d'où justement la mise en place de ce plan. J'espère que ça va donner un nouveau souffle et qu'on va aller de l'avant.
Donc, il va falloir travailler en étroite collaboration avec les médecins du travail pour avoir justement ce canevas, pour avoir ces chiffres, pour voir où est la situation, pour pouvoir justement changer certaines choses.
Il n'y a pas que, ça fait partie des actions, mais il y a aussi d'autres, parce que je vous ai dit, notre travail va au-delà de l'examen clinique d'un travailleur. Mais bon, ils n'adhèrent pas, même les travailleurs n'adhèrent pas, c'est culturel.
Il faudrait qu'on
améliore. On ne va pas chez le médecin tant qu'on a pas mal quelque part où il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on se sent
il faut
bien,
changer ses habitudes, apprendre à aller chez le médecin tous les 6 mois pour voir où en est la situation. Surtout quand on est justement dans une structure qui nous donne justement cette. C'est une chance aussi d'avoir un médecin de travail.
Oui, c'est une chance.
C'est bien de profiter justement de ce qu'on a.
Tout à fait, mais ils ne se rendent pas compte, aussi bien les employeurs que les travailleurs.
Je sais que c'est obligatoire. Une fois par an, on est obligé de passer chez le médecin.
Ça, c'est bien.
Et c'est une obligation pour voir un petit peu où est la situation. Respecter.
Votre employeur, il est au top.
Est obligé. Et c'est très bien. Mais justement, la dernière fois, il faut dire que j'ai la chance de rencontrer mes invités ou de discuter avec eux. Et on a parlé justement d'un phénomène hyper intéressant. Je ne sais pas, vous n'arrivez pas à comprendre certaines anomalies, notamment sur justement le non-respect.
Je vous assure qu'on ne se l'explique pas nous-mêmes. Il y a une résistance au changement, pour reprendre la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Alors bon, c'est vrai qu'on est en train de dire l'employeur, mais franchement, il y a des situations où il achète les effets de protection, mais il ne les porte pas. Il ne les porte pas, parfois il les vend.
D'accord.
Il les vend parfois, mais très
ceux
souvent.
Qui sont sur les chantiers.
Alors il y a des fois, il les laisse dans leur
casier.
Armoire, dans leur casier, mais il ne les porte pas. Je pense qu'on n'a pas de culture de prévention à tous les niveaux. À tous les niveaux, et même dans des entreprises où vous avez des travailleurs qui sont de cultures ou d'ethnies différentes, on le voit, et donc l'employeur les dote pareillement d'équipements de protection, et finalement vous voyez ces étrangers les portent.
Un respect d'un côté et le non-respect de l'autre.
Oui, même si par une chaleur de 45-48 degrés, ils portent leurs effets, les nôtres, non.
On a vu les Chinois sur les terres.
Les Chinois.
Et est-ce que vous avez constaté sur le terrain
Oui. ben oui, si je vous en parle, c'est parce qu'on l'a constaté. Je vous ai dit, bon, parfois, ils n'en ont pas. Et parfois, ils en ont aussi. Et ils ne les portent pas. C'est-à-dire que l'employeur investit.
Professeur Léanie, qu'est-ce qu'il va falloir faire?
Il va falloir reprendre, je ne sais pas si c'est dans les programmes scolaires, les programmes universitaires, inculquer cette
culture de prévention.
Culture de prévention. Je pense qu'il faut commencer très, très jeune. On voit des émissions à l'étranger, parfois, quand ils font du bricolage chez eux, dans des films.
On les voit porter des lunettes, le casque, les gants.
Il est dans son garage, mais il porte ses effets de protection.
On devrait faire ce genre de programme, oui, pourquoi pas.
Oui, la sensibilisation, elle est très importante.
Oui, la sensibilisation, elle est importante. Oui.
Il faut inculper dès l'âge très jeune, avant même qu'il arrive à son emploi.
Très jeune, dans les centres de formation professionnelle, au niveau de l'éducation nationale, la formation universitaire. Et aussi, on constate un autre phénomène, c'est la résistance à la vaccination.
Oui,
d'accord.
Ils ne se vaccinent pas. Ils ne veulent pas, enfin, très peu. Par exemple, la vaccination, nous étions... nous relayons. En fait, nous sommes inscrits dans la santé publique. Par exemple, pour le programme élargi de vaccination, on continue. Donc, les enfants sont vaccinés. Donc, il y a les PMI, ensuite la santé scolaire, ensuite il y a la santé universitaire.
Donc, jusqu'à l'âge de 18-19 ans.
Nous prenons le relais. Après, c'est le relais. C'est des vaccinations qui sont obligatoires.
Pour la vaccination
pour tout le monde ou pour certains métiers?
Pour le diphtérie tétanos, c'est une vaccination obligatoire pour tous les travailleurs.
Voilà.
Par la suite, c'est par spécificité. Par exemple, pour l'hépatite, pour les gens, les éboueurs, pour les personnels de santé, ils doivent être vaccinés. Quoique, actuellement, le nouveau calendrier vaccinal, la vaccination de l'hépatite, est inclus depuis 2023. Donc, les gens, en principe, ils sont vaccinés.
C'est-à-dire que les personnes qui arrivent sur le marché du travail, ceux qui sont nés après 2003, donc, parce qu'il y a une liste d'activités et de secteurs où cette vaccination contre l'hépatite B
est obligatoire,
notamment le personnel de santé, ceux qui travaillent en contact étroit avec les enfants,
les laboratoires,
ceux qui sont dans les laboratoires, ceux qui sont dans les unités pénitentiaires, c'est considéré comme des secteurs à haut risque pour les hépatites. Là, normalement, ils sont vaccinés. Nous, ce que nous faisons, nous essayons de faire un contrôle d'immunité pour être sûr que vraiment il a le taux requis, surtout pour le personnel de santé qui va aller dans des services à risque. Voilà. Mais ils ne viennent pas. La vaccination contre la grippe...
Peut-être qu'ils ne sont pas au courant.
Ils le sont.
Il y a une réticence.
Il y a une réticence. Il y a, je sais pas, une mouvance anti-vac qui s'est installée. Je ne sais pas pourquoi. Et donc là...
Après le Covid, ça a créé un petit peu...
Oui, c'est vrai que ça s'est aggravé. Mais ça faisait un moment que les gens n'adhèrent pas. Et donc, il y a...
Au contraire, par rapport au Covid, il y a des gens qui ont été intéressés par la vaccination.
Pour le Covid,
on a
enregistré
les autres vaccinations de couverture, oui.
Donc les rapports, et c'est tout ça qui préoccupe le ministère de la Santé quand il voit la couverture vaccinale. C'est tout ça, c'est des indicateurs. D'où ce plan stratégique pour un petit peu booster, voir ce qui ne va pas. Les dysfonctionnements, on les a identifiés, mais comment faire pour aller au-delà, quels sont les leviers, c'est à l'étude. Voilà.
C'était
justement l'objet. Si, on sait, mais ce n'est pas encore au point. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, justement, pour avoir des résultats fiables?
Il faut peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière pour que ça... Oui, je pense qu'il y a un plan qui doit être mis en place dans les meilleurs délais parce que... Et puis, on est aussi confronté à un problème d'effectifs. Nous ne sommes pas nombreux. Donc, il faut absolument former d'autres médecins du travail. Il faut en former. Il y a un manque très important de médecins du travail. Donc, il faut former. Mais ça, je pense que dans toutes les spécialités, il y a un manque. Sauf que nous, dans la ressource enseignante, elle commence à vieillir. Donc, il faut faire vite et former. Elle vieillit et il n'y en a pas beaucoup.
Ah, d'accord.
Des enseignants.
Donc il va falloir.
C'est un métier qui n'est plus attractif.
Et pourtant.
Et pourtant, oui, moi, de mon temps, quand j'avais passé la maîtrise, ça se bousculait. Et puis c'était très sélect. Là, cette fois, ça fait deux concours. On n'a pas de candidats. Très peu, il y a des postes qui restent vacants. C'est très préoccupant.
Il va falloir peut-être informer encore davantage sur l'intérêt, justement, de cette spécialité.
Pas que notre spécialité, c'est un petit peu, oui, pour notre spécialité, oui, c'est ça, le fer de lance, ça va être ça, pour voir un petit peu sensibiliser les employeurs, sensibiliser
pour qu'on s'intéresse encore davantage à la spécialité.
Ben oui. Pour qu'elle adhère, voilà.
En plus, tout ce que vous avez à faire.
Oui, oui.
Ben, justement, autant que travailleur, qu'est-ce qu'il faut avoir, justement? Est-ce qu'on doit... Il n'y a pas que les maladies. Il y a aussi l'environnement qui est très important.
Oui, c'est ça, c'est l'étude des conditions de travail.
C'est les conditions de travail.
Docteur, pour essayer d'établir un plan de prévention sur les lieux de travail. Si nous constatons qu'il y a des risques sur les lieux de travail, on doit lancer des recommandations pour assurer une prévention, soit à travers la suppression des risques, et quand ce n'est pas possible, on intervient pour protéger le travailleur, soit par des équipements de protection collectif ou des équipements de protection individuelle. Il faudrait que le travailleur soit au courant des risques auxquels il est exposé pour qu'il puisse participer à cette prévention. Il faudrait aussi sensibiliser le responsable d'hygiène et sécurité sur les lieux de travail pour contribuer à cette prévention, sensibiliser le travailleur.
Donc l'employeur,
aussi bien.
Donc, l'employeur doit absolument informer ses, son équipe.
Il a l'obligation.
Risques. Il est obligé.
Il a l'obligation réglementaire. La loi, elle exige à tout employeur d'assurer un plan de prévention, d'assurer la médecine du travail pour ses travailleurs, etc.
Il doit informer aussi des risques de ce
métier. Oui. Il doit l'informer des risques, l'informer des moyens de prévention, lui doter des moyens de prévention et l'obliger à les porter à travers les HSE, les personnes responsables d'hygiène, sécurité au milieu de travail. Donc, il y a un travail d'équipe qui se fait en collaboration entre médecins de travail, HSE et employeurs et travailleurs aussi. Il doit être impliqué dans la culture de prévention au sein de l'entreprise pour qu'il puisse adhérer. Voilà.
Quand on pense que le sieste est primordial aussi, c'est incroyable. Il ne faut pas aller, jusqu'aux pathologies, aux maladies. Oui. Une simple petite sieste peut sauver, par exemple, la personne.
Peut permettre au travailleur de récupérer un peu ses forces pour continuer le travail l'après-midi.
Elle est... Docteur, professeur Liani.
Enfin, elle est souhaitée. Ce qui est obligatoire, la dernière fois, bon, je l'avais dit, mais après, j'avais relu. Ce qui est obligatoire, c'est la gymnastique. C'est les gymnastiques de
bouger.
Pause. Ça, c'est obligatoire. Il y a même... ils encouragent les employeurs, les textes, encouragent les employeurs à faire des espaces, donc des salles
d'activité
de
physique.
D'activité physique, mais très peu.
Et de détente et repos.
Le repos.
Et ça existe, je veux dire, dans la loi.
Oui.
On est obligé de donner, enfin, d'assurer un espace
de détente pour les travailleurs.
Des espaces de détente, un espace pour faire une
pour la restauration aussi, parce que c'est interdit de manger sur les lieux de travail.
Voilà, c'est des obligations légales. Mais malheureusement, je vous ai dit, il y a des textes, il y a un fossé qui s'est creusé entre la réalité industrielle, la réalité sur le terrain et les textes. Déjà pour beaucoup de choses, oui. Par exemple, pour ceux qui font le travail posté, le travail de nuit, on prévoit aussi cette sieste, on la recommande, oui.
Mais généralement, c'est un système de quart, il faut qu'il y ait quand même...
Mais là aussi, on a beaucoup à dire dans ces organisations de travail, parce que, par exemple, le dispositif réglementaire, le Code du travail algérien, la loi sur les relations de travail, plutôt, elle prévoit les différentes formes d'organisation de travail. Alors, il y a le travail posté, le travail de nuit, les heures supplémentaires. Or, maintenant, il y a autre chose. Il y a le travail flexible, les astreintes, il y a le télétravail.
Le télétravail.
Tout ça n'est pas prévu par la loi. Et donc, comment surveiller ces risques? Parfois, il y a des travailleurs, par exemple, qui ont une pathologie qui fait qu'il sera mieux chez lui. Travailler chez lui, de chez lui, c'est plus indiqué. Ça va lui éviter
des
insuffisants rénaux, jeunes, qui veulent rester dans le monde du travail. Il est, par exemple, comptable, il est informaticien. Il peut très bien faire ça de chez lui. Mais les textes de loi ne le prévoient pas. Donc après, c'est toute une procédure. Il y a des entreprises qui
Et pourtant,
adhèrent,
c'est devenu à la mode maintenant.
Surtout après les quelques années.
Réglementairement, moi, un DRH m'a dit, je veux bien, mais... Et s'il tombe chez lui, c'est considéré comme accident de travail.
Exactement.
Comment faire? La loi prévoit que ça se passe sur
les lieux
de travail
ou sur
là,
le trajet.
Là, il est chez lui. Vous me proposez une organisation, j'essayais de le convaincre. Et c'est vrai qu'il y a un vide juridique. Donc, bon, il y a des employeurs qui prennent sur eux, qui acceptent sous réserve d'un certificat médical, d'un dossier médical, bien, mais ils sont... Il y a une bonne volonté de cette entreprise, mais il y a d'autres qui vous disent, moi, je ne suis pas couverte.
Bah oui, le monde change, il va falloir vraiment pallier à tous ces manques.
Oui, je ne sais pas si vous réalisez toutes ces carences qu'il y a. Je vous ai dit, c'est une médecine qui est réglementée. C'est une institution légale. Et les référentiels du médecin du travail sont inscrits dans les textes de loi. Ce qui fait que ça lui laisse une marge de manœuvre actuellement qui est réduite. Et puis, je vous ai dit aussi par rapport aux employeurs, alors bon, il a l'obligation d'assurer la médecine du travail. Elle est à sa charge. Quand on dit sa charge, ça ne se limite pas que de payer cette visite médicale. Il doit payer les examens complémentaires qui ont trait à l'aptitude au poste. Et très peu le font. Enfin, très peu, peu le font.
En sachant que c'est une obligation.
En sachant que c'est une obligation. Et donc, on se retrouve, on reçoit le travailleur, on l'examine, on l'interroge parce qu'on a un dossier qui est institutionnalisé, c'est un modèle type, donc on le renseigne. Mais quand on arrive au terme de la visite médicale, donc selon les exigences du poste, selon ce qu'il nous a rapporté, selon ce qu'on a constaté, ce qu'on connaît des contraintes de ce poste, on prescrit des examens complémentaires qui normalement sont à la charge. Mais les employeurs ne les prennent pas en charge. Ou alors certains les prennent en charge et c'est les travailleurs qui ne le font pas. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote dans une entreprise, donc après avoir vraiment fait force de... on a réussi à ce que l'employeur signe une convention avec un laboratoire. Donc parfois ils font de beaux gestes, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà des examens qui ont trait à l'aptitude. Ils font par exemple des dosages de glycémie, certaines entreprises assurent même paye des mammographies à leurs travailleuses femmes. Il y a des employeurs qui sont dans la
prévention.
Alors dans cette entreprise, donc dans le bilan de santé, puisqu'on s'inscrit aussi dans la santé publique, on avait demandé des glycémies. Puis mon Dieu, tout elle revenait élevée. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc il y a la résidente qui vient, qui me dit, madame, voilà les bilans. Puis c'est vrai qu'ils avaient tous le diabète à regarder les bilans. Je me disais, mais c'est pas possible.
Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise?
Pourtant, c'est très physique.
Est-ce qu'on va donc, peut-être qu'on leur offre
qu'est-ce qui
des
se
gâteaux
passe
le matin?
Et ben finalement, comme ils ne payaient pas que c'était gratuit, qu'on les obligeait à aller à ce laboratoire, ils prenaient leur petit déjeuner et ils allaient faire le prêt.
Ah, ils ne venaient pas à jeun?
Ils venaient pas à jeun.
D'accord.
Donc, je vous ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas que l'employeur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on ne se rend pas compte de l'importance de cette visite médicale.
D'où l'intérêt de la sensibilisation. On revient toujours à la sensibilisation.
On sensibilise, mais bon. Il y a vraiment un problème de
culture. Eh bien, justement, comment se fait la sensibilisation sur le terrain?
Alors, ça dépend des moyens de l'entreprise. Alors, il y a des entreprises où on le fait par intranet, donc ça va sur tous les ordinateurs, c'est pas tous les secteurs. Sinon, parfois, on le fait, c'est-à-dire qu'on fait des petits rassemblements, on demande à l'employeur d'aménager une salle et faire la sensibilisation, ou alors on met des affiches. Donc, tous les supports sont acceptés.
Même parfois au cours de la visite médicale.
Oui, ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'en même temps, on l'examine et puis on fait...
une petite sensibilisation.
En même temps, on parle, on essaye de répéter. Est-ce que vous faites ça? C'est bien, attention, il faut faire ça. Vous travaillez en hauteur, si jamais... Des choses comme ça. Pendant la visite, on profite pour faire de la formation et de l'information qu'on donne aussi. Et pourtant, nous, on est justement une des difficultés aussi à cette surveillance. C'est aussi, il y a un manque de communication très souvent entre l'employeur et nous. Il y a des substances chimiques qui rentrent dans l'entreprise. Il lui est fait obligation de nous communiquer.
Déclarer le process, c'est-à-dire tout produit chimique.
La fiche de données de sécurité, on doit savoir pour adapter notre surveillance clinique. Si c'est un solvant, on surveille d'une façon. Si c'est un toxique minéral, il y a une façon de surveiller. On a une formation initiale qui est adaptée à ça. Mais encore faut-il savoir à quoi est exposé ce travailleur. Mais on ne nous transmet pas l'information. Très souvent, il y a un changement dans le procédé technique et on n'est pas informé. Voilà. Donc, il y a une incompréhension, un manque de communication, ce qui fait qu'on a du mal
ça entrave notre activité.
Ça entrave beaucoup notre activité. Nos missions, on n'arrive pas. On pense qu'on ne fait que de l'aménagement de poste, mais c'est faux. C'est pas ce que nous... on n'est pas des experts d'aménagement et de contrairement aux
idées reçues. Il y a tout un travail finalement et vous avez besoin justement de cette honnêteté de la part de ceux
l'employeur, des
avec
travailleurs.
Qui vous êtes obligé de travailler tous les jours
pour et avoir. On a besoin du système aussi d'organes de contrôle.
Oui, l'inspection de travail.
L'inspection.
C'est un combat de tous les jours en fait. Oui. Hein.
Même eux, bon, ils vous diront, c'est-à-dire que je suis sûre qu'eux aussi, ils ont leurs contraintes, pourquoi ils ne font pas, cet employeur aussi. Il faudrait qu'on écoute un peu tout le monde pour savoir pourquoi ils ne font pas, parce que même cet employeur, peut-être qu'il faut lui donner l'occasion de parler, pourquoi il ne fait pas.
Là, on arrive presque à la fin de l'émission.
Déjà une heure.
Ah, déjà une heure.
Bah oui, finalement.
Oui, ça s'est vite passé.
Si on devait résumer un petit peu la situation, professeur Liani et docteur Mamir.
Bon, je dirais que la médecine travail est une obligation et un droit pour l'employeur et un droit pour le travailleur, que tout le monde doit participer parce que c'est une discipline qui est quand même pluridisciplinaire. On doit faire intervenir tout le monde pour que ça puisse réussir sur le terrain.
On a besoin d'avoir des données.
Oui, certes.
Pour avancer, c'est important.
Pour établir un plan stratégique. Mais l'employeur, donc, étant donné que c'est les premiers responsables, il doit écouter le médecin de travail, étant donné que c'est son conseiller. Mm-hmm. Il doit y avoir une collaboration entre les différents partenaires, notamment l'inspection de travail, l'hygiène et sécurité, et le travailleur lui-même, pour qu'on puisse préserver sa santé sur les lieux de travail et être rentable par rapport à notre activité. Voilà.
Et quand on a juste
une triade, le médecin professeur du travail, Liani, l'entreprise et les partenaires sociaux. Voilà.
Il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi de la part des travailleurs.
Elle s'impose. Je crois qu'elle s'impose.
C'est bien de penser à soi et de penser à sa retraite. C'est bien de sortir en bonne santé, ça c'est pas mal.
Oui, tout à fait. Espérance de vie sans incapacité, l'augmenter, mais sans incapacité. Ça sert à rien d'aller à 78 ans.
Donc on doit commencer finalement dès le premier jour.
Ah oui, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes.
Oui.
Les jeunes qui
prenez soin de vous.
Effectivement, sur le lieu de travail.
Oui, pensez à votre santé. À votre santé physique et mentale.
Et mentale, oui.
C'est très, très important.
Le mental.
Donc c'est bien d'aller consulter son médecin de travail, c'est bien d'établir ce lien. Vous avez besoin de données, il n'y a que lui qui va pouvoir justement donner ses paramètres.
Et adapter
paramètres.
Votre surveillance, oui, parce qu'en plus, il confronte un état de santé à une exigence d'un poste de travail. Donc, et puis, c'est lui qui fait la balance entre le droit au travail et le droit à la santé. Il équilibre. Et on essaye de l'adapter, de mener le plus loin possible cette personne dans le monde du travail, de les maintenir en activité.
C'est bien de respecter aussi les visites médicales annuelles.
Oui, effectivement.
Obligatoire. Et c'est très, très important. Professeur Liani, merci beaucoup.
Merci à vous.
Docteur Mamir,
merci à vous.
Plaisir de vous recevoir. Merci à Hakim Ben Moussa pour la réalisation. Nedibo Streaming, Mohamed Tolba à la technique et notre ami Tahar à la régie d'antenne. Sarah Etkassi est là, donc vous allez la retrouver juste après le flash de 11h. Je vous donne rendez-vous demain, le Hien Albi, même heure, même station, à partir de 10h sur Alger Chaîne 3 pour service public.
And then